peut-être pas une grande rentrée télé traditionnelle, ce qu'on vit actuellement. Il n'y a pas de grande discussion qui se tourne autour de ce qui est diffusé à la télévision pour l'instant. Du moins, il y a quelques petits trucs qui s'en viennent. Mm-hmm. On a parlé l'autre fois sur Netflix de quelques émissions, documentaires pour la rentrée qui sont quand même assez intéressantes. Mais ce qui, cette semaine, fait le plus parler, c'est un documentaire. Un documentaire qui sera d'ailleurs présenté cette semaine, ici même, au cinéma de Chicoutimi.
Oui, absolument. Sur l'un des sujets qui polarise plus les Québécois. Écoute, moi, je suis né en 75, là, donc j'étais pas né en octobre 70, mais c'est une des histoires que je trouve les plus fascinantes et intéressantes du Québec moderne, entre guillemets, on va dire ça comme ça. Et il y a un documentaire, justement, qui s'appelle Les Roses, qui est basé sur, pas seulement Paul Rose, mais la famille au complet. Et pour en parler, le réalisateur, qui est le fils de Paul Rose, Félix Rose. Félix, bonjour.
Oui, bonjour.
Première question, Félix, pourquoi?
Pourquoi? C'est la première. Pour répondre à cette grande question-là, c'est je comprenais pas. C'est quand j'ai appris qui était mon père, j'avais 6 ans. C'était une fille qui me dit ton père est impliqué dans la mort d'un homme. Ça a été un traumatisme pour moi, j'y croyais pas. Puis ma mère me dit c'était vrai. Donc ça correspondait pas. L'homme que je connaissais, c'était un papa cool, assez doux. Donc, ça ne correspondait pas à l'image d'un tueur ou d'un terroriste que j'ai appris à connaître des médias. Donc, toute ma vie, ma quête, ça a été de comprendre ce qui a amené des gens que je considérais comme des gens bons à commettre des gestes aussi graves. Ouais. Et c'est un peu ça, la famille Rose. C'est l'aboutissement de plusieurs années de recherche généalogique et documentariste qui explique un peu c'est quoi les motivations derrière cette crise-là.
Si vous avez devancé une de mes prochaines questions, à savoir si plus jeune, vous avez été victime de bon, on dit d'intimidation, mais peut-être de moquerie ou de choses comme ça, dû à votre père. Comme vous l'avez dit, c'est arrivé.
Oui, mais pas du tout, parce que honnêtement, premièrement, les gens de mon âge, j'avais aucune idée c'était qui mon père. Puis nous, on vivait dans une famille tissée serrée, on était entourés des gens qui nous aimaient, hein, pas des gens qui ne nous aimaient pas. C'est plus dans les médias qu'à travers les anniversaires d'octobre que là j'ai compris à quel point que mon père était controversé. Puis quand il est décédé en 2013, il y a eu une espèce de scandale parce que t'avais Amir Kazik qui voulait lui rendre hommage, puis t'avais les conservateurs à Ottawa qui refusaient toute forme d'hommage à Paul Rose. Donc moi j'ai compris vraiment à quel point que certains l'aimaient et d'autres l'aimaient pas. Justement, le Journal de Montréal avait fait une première page. Paul Rose, autant aimé que détesté. Donc, mon père est une figure controversée et il le restera toujours. Donc, je suis conscient de tout ça puis je l'accepte.
Je l'ai dit en entrée de jeu, ça parle pas seulement de votre père, ce film-là, le frère Jacques également, mais moi, ma découverte, c'est votre grand-mère qui s'appelle Rose Rose. Comment vous avez trouvé des... Parce que les images sont incroyables. Là. Les images d'archives que vous avez amassées pour faire ce documentaire-là sont d'une qualité extraordinaire. Mais parlez-moi un peu de votre grand-mère qui est une femme, qui est une battante, qui est une femme extraordinaire.
Là. Oui, exactement. Moi, je la connaissais pas. Elle est décédée quelques années avant ma naissance, mais c'était comme une figure mythique chez les Roses. Là. J'arrivais chez nous, il y avait une photo géante d'elle. C'était marqué Rose Rose arrêtée au poste de police de Westmount pour avoir remplacé un drapeau du Canada pour un drapeau du Québec. Mais je la connaissais pas plus que ça. Puis quand j'ai fouillé dans les archives, parce que moi j'étais obsédé par les archives, parce que c'est tout le temps les mêmes images qu'on voit de la crise d'octobre. Tu sais, j'allais dans des greniers, j'arrivais avec à l'ONF avec des vieilles bobines puantes qui les nettoyaient, puis je faisais des trouvailles. Puis une des plus grandes trouvailles que j'ai faites, c'est vraiment ma grand-mère. Quand j'ai découvert cette femme-là, comme je disais, une battante, une militante, j'ai mieux compris les frères Rose, parce que le cœur de la famille, c'est elle. Puis c'était beaucoup plus que, admettons, quand ses fils ont arrêté, elle est devenue le visage public des frères Rose. Elle a été dans l'espace public pendant 10 ans. Et elle allait au bac, là, elle allait dans des tribunes ouvertes. Puis tu sais, il y avait beaucoup de personnes qui étaient hostiles par rapport à ses fils, mais elle les défendait, puis avec tellement de fougue, d'aplomb, avec une langue populaire, que les gens ont commencé à l'adopter, l'apprécier, puis souvent à se dire, on n'est pas d'accord avec ce que vos gars ont fait, mais vous, on vous aime. Puis elle a tellement été choquée par le monde carcéral, qu'elle allait souvent, les conditions de détention inhumaines, que pour elle, maintenant, tous les détenus étaient ses enfants, puis elle servait de sa tribune pour parler de tous les problèmes qu'il y avait en prison, dont elle a contribué à améliorer les droits des détenus. Donc, pour moi, c'est vraiment la révélation, puis une remarquable oubliée.
Absolument. Est-ce que faire parler votre oncle Jacques, ça a été un gros défi?
Ah oui, c'est vrai. Il voulait pas parler. C'est comme mon père est décédé. La seule personne qui pouvait me raconter cette histoire-là, c'était Jacques Rose. Puis il ne voulait pas, ça a pris 2 ans. Puis un jour, il m'appelle, puis il me dit « Félix, je suis un peu mal pris, j'ai besoin de quelqu'un pour poser des fenêtres. » Puis là, j'ai comme vu une espèce d'opportunité. Je lui ai dit « OK, je vais le faire, mais j'aimerais ça que tu me donnes 1 heure ou 2 heures d'entrevue par jour. » Il a finalement dit « C'était correct. » Donc, j'étais allé avec un bon ami à moi, Eric Piccoli, qui a fait la caméra. Donc, qu'est-ce qu'on faisait? On travaillait comme des fous de la journée. Puis le soir, on était tellement épuisés, tellement fatigués qu'on disait que ça enlevait toute forme de filtre. Puis ça devenait vraiment des échanges intimes entre un neveu et son oncle, à tel point que quand j'ai montré ça à mes tantes, eux, ils capotaient parce qu'ils m'ont dit « Genre qu'on ne nous a jamais parlé de ça, c'est la première fois qu'il se dévoile comme ça. »
Donc, les scènes où on voit l'aider avec les fenêtres, avec les portes, tu sais, des fois, on peut mettre des images pour avoir l'air cute et tout. C'est pas entre guillemets, stagé pantoute, là.
Ah non, du tout. C'est au montage qu'on s'est dit, OK, on peut. Il y a une symbolique là-dedans, une maison qui se construit, mais c'était vraiment pas stagé, là. C'était le deal, là.
Ça a pris combien de temps faire ce documentaire-là? Parce que j'en ai parlé tantôt des images, puis juste les images de la Saint-Jean en 68 qui sont quasiment terrifiante. Les enregistrements clandestins que vous avez, ça a pris combien de temps monter ça?
Le montage, là, c'est 8 ans de recherche, 1 an de montage. C'est arrivé avec 500 heures de matériel. Le monteur, c'est un monteur extraordinaire qui s'appelle Michel Giraud, qui a fait des extensions comme la porte du diable et le noir des anges. Puis on a construit avec ces 500 heures-là. Puis un des défis, c'est une des pièces maîtresses du film, c'est une cassette audio que mon père avait enregistré à sa mère quand elle était sur son lit mort, il était en prison, parce qu'on lui avait refusé de lui dire un dernier au revoir. Tu sais, c'est un droit qui est accordé à toutes les tenues de droit commun, mais pas à Paul Rose, parce que c'est un symbole fort, ils ont voulu le casser. Donc, cette cassette-là, c'est une cassette très émotive où il livre un peu son monde intérieur. Il dit à sa mère à quel point il l'a aimé, l'amour du Québec, l'amour du territoire. Donc, il a fallu imager ça. Donc, ça a été un gros travail de montage, trouver ces images-là, et illustrer tout ça. Puis chaque pièce du film, tu sais, on voit la famille vraiment évoluer sur 50 ans. Donc moi, je fouillais dans toutes les archives du monde. Des fois, c'était où est Charlie? Je trouvais mon père dans des bobines, dans des sous-sols. On restaurait ça à l'ONF. Puis on trouvait ça. Il y a des films comme, mettons, le Daniel Payette, le fils de Louis Payette, avait fait des images extraordinaires à la maison du pêcheur Gaspésie, une auberge de jeunesse. Mon père était dedans. Et ces images-là, il les avait cachées pendant la crise d'octobre. C'est sa mère qui lui avait dit cacher dans le jardin pour pas justement qu'il se fasse arrêter. Puis lui, il avait conservé ça. Donc, c'est des images qui n'avaient jamais été vues. Donc, j'ai vraiment construit mon film là-dessus.
Comment vous réagissez face, parce que, tu sais, veux pas, votre père est quelqu'un de très polarisant. Vous l'avez dit tantôt, là, on l'aime ou on le déteste. Comment vous réagissez aux critiques négatives qui disent « Bon, une autre affaire qui fait l'apologie du FLQ puis qui rend ça beau alors qu'il y a eu le décès d'un homme là-dedans. » Comment vous réagissez à ça?
Mais personnellement, je m'attendais vraiment à pire que ça. Moi, j'étais prêt à ça. Le décès de mon père, c'était ça. Puis moi, comme je le dis depuis le début, loin de moi l'idée de faire l'apologie d'un meurtre et de banaliser la mort d'un homme et l'enlèvement d'un homme. Moi, je pense que Pierre Laporte ne méritait pas d'être enlevé, puis encore moins d'être tué. Moi, je veux comprendre les gestes. Puis moi, vu que j'ai accès à des gens importants, parce qu'ils ont été au cœur d'une des crises les plus marquantes de l'histoire du Québec, moi, j'avais un devoir de montrer ce point de vue-là, parce que pour moi, on peut reprocher, on peut condamner le meurtre de Pierre Laporte. L'idée, c'était de comprendre c'est quoi les motivations. Moi, j'ai toujours qu'est-ce qui a amené à ça. Puis moi, j'ai compris que c'est pas 4 personnes qui se sont levées un matin pour enlever le ministre du Travail. C'est que les voies démocratiques étaient bloquées. Mon père, c'est un militant à la base. C'est un démocrate, c'est un pacifique. Il était dans toutes les manifestations. Lui, il croyait que l'indépendance du Québec allait régler la question sociale, parce que lui, il vient d'un milieu pauvre, où il y avait vraiment une lutte des classes, où tu travaillais en usine, tu étais obligé de parler en anglais au patron. Donc, pour lui, les manifestations, ça faisait aider à avancer ses idées. Puis, à un moment donné, c'était juste des émeutes, c'était des coups de bâton. Puis, un jour, il n'y en avait plus de manifestation à Montréal. C'était arrêté. Donc, toute cette jeunesse-là n'avait plus l'opportunité de s'exprimer. C'est pour ça que des gens comme mon père, ils ont dit, mais là, si on ne peut plus prendre la rue, on ne peut plus prendre la parole, qu'est-ce qui nous reste? C'est la clandestinité. On rejoint la FLQ. Et, justement, il est inspiré des luttes en Amérique latine, des luttes en Algérie. Donc, j'ai compris que c'était pas des gestes gracieux et qu'il y a une leçon là-dedans. Et moi, je pense que si on veut que des événements comme ça ne se reproduisent plus, ce que je veux, il faut justement que le gouvernement écoute sa jeunesse, que les voies de communication soient ouvertes, qu'il y ait un semblant de négociation, parce qu'on l'a vécu en 2012. Moi, les manifestations, je trouvais que c'était assez festif. Mais le jour où le gouvernement a commencé à être baveux, il leur dit aller pour du job dans le Nord, il a refusé de même les rencontrer et qu'il a fait une loi anti-manifestation. C'est là que ça a dérapé. Puis c'est là qu'il y a eu des émeutes. C'est là qu'il y a eu des blessés graves. Donc, pour moi, c'est une des leçons du film.
Et Félix, dernière question qui est peut-être un peu plus personnelle. Est-ce que vous militez? Est-ce que vous avez le goût de militer ou c'est votre père puis vous, c'est autre chose?
Moi, c'est vraiment autre chose. Parce que moi, je viens d'une famille de militants. Moi, qu'est-ce qui me passionne dans la vie, c'est le documentaire. J'aime ça mettre la lumière sur des gens et sur des causes. Puis c'est sûr que vu que j'ai grandi autour d'un militant, j'aime ça filmer des gens qui militent, mais ça veut pas dire que je fais des films militants. Moi, mon approche est beaucoup plus intime, personnelle, est pas complaisante. T'sais, moi, je montre les gens tels que je les perçois. Donc, je suis pas dans le pamphlet ou des trucs comme ça. Je suis vraiment plus dans le pourquoi. Et qu'est-ce qui a amené, puis présenter le contexte historique et les raisons, les motivations derrière les gestes. Moi, je suis plus là-dedans, puis ma passion dans la vie, c'est vraiment le documentaire.
Félix Rose, merci beaucoup.
Merci à vous.
Au revoir.
Je suis très content d'être dans la région, puis je vais être mercredi à Chicoutimi, donc s'il y a des gens qui ont des questions, je vais être là pour y répondre.
Moi, puis honnêtement, j'invite les gens à aller voir ça, c'est très réussi, merci.
Merci à vous.
Merci. Puis, tu sais, Simon, qu'on soit d'accord. Puis ça, il y en a qui doivent nous écouter présentement. Ils disent, bon, regarde l'air, là.
Ah, t'as bien fait de poser la question quand même, parce que c'est assurément la réaction de plusieurs personnes.
Oui, mais l'œuvre en tant que telle est magnifique. Les images sont magnifiques. Je te dis, tu sais, des fois, quand on voit des documentaires, surtout au Québec, avec des images des années 70, c'est un peu rien, c'est pas beau, tu vois rien. Là. Non, là, c'est quand même bien documenté. Oui, il y a eu la mort d'un homme là-dedans. Si on s'entend là-dessus, là.
Mais mettre pas l'emphase là-dessus, comme non. On s'en parlait en début d'émission.
Ah, comme je dis, c'est la grand-mère. Tu vois beaucoup la grand-mère qui est quelqu'un, là. Ouais. Qui, puis à l'époque, souvenez-vous, là, les femmes n'avaient pas le droit de vote, voulaient pas si longtemps que ça non plus, là. Puis les femmes ne pouvaient même pas être jurées dans un procès à l'époque, là. La grand-mère est impressionnante, là.
Elle devient un personnage, puis elle change au fur et à mesure que l'histoire avance, dans le sens où on la découvre au début du documentaire, alors qu'elle est une mère de famille, tout ce qui est de plus ordinaire avec le père qui parlait pas beaucoup, elle a fait une dépression. Puis quand son fils tombe en prison, elle se trouve une cause, là. Les prisonniers politiques. Et là, elle devient militante, elle devient à la tête de son comité, elle s'engage un avocat, elle réussit à faire sortir le frère Jacques de prison et elle est enregistrée, on voit des... Écoute, moi aussi, ça a été mon coup de cœur parce que la mère, on la connaissait peu ou pas, nous autres.
Patrick, par texto, nous dit « Rose-Rose était comme la Mad Alton des années 70 ».
Vraiment.
Ouais, Mad Alton était plus maligne un peu, par exemple. Mad Alton, j'aurais pas ouvert la porte, là.
Ouais, mais t'es salé aussi, Rose, dans certaines de ses entrevues qu'on voit dans le documentaire. Là, t'as pas piqué des verres.
Puis, tu sais, on le disait un peu plus tôt, c'est quand même rare de voir un documentaire comme ça présenté dans un cinéma commercial. Un cinéma privé. C'est le genre d'activité d'habitude qui se déroule soit à l'ONF, en ciné.
Non, mais non. Va te le dire, pourquoi? Parce que j'ai l'impression que Netflix a rendu le documentaire sexy. Ça, t'as le goût d'aller le voir.
C'est un bon point que t'amènes.
Puis t'as le goût d'aller le voir. Tu sais, dans le temps, là, v'là 20 ans, v'là 30 ans, là, à l'école, quand on voyait les trois lettres maléfiques, là, l'ONF, là, on disait, oh mon Dieu, oh, que ça va être plate, puis que ça va être dope, puis les grenouilles qui s'accoupent, puis...
Mon corps, c'est mon corps, ça n'est pas le tien.
Hey, là, je vais aller loin, là, puis je vais me faire crucifier, là, mais... L'homme qui plantait des arbres, là... Hein?
Non, l'ONF, ça a longtemps été effectivement un gaffe.
Mais même le le ton documentaire de Découverte à Radio-Canada.
Ben, c'est même les animaux et l'espace, c'est correct, là.
Mais Netflix nous permet d'aller ailleurs.
Papa, on dit Netflix, puis qu'on l'aime.
On parlait de Marie-Claude Savard, ouais, qui a fait quatre séries documentaires, ouais, sur le sport professionnel récemment. Puis il me semble qu'on a levé notre jeu d'un cran, ou encore l'argent est là, alors qu'il ne l'était pas auparavant. Puis Netflix a forcé même les...
Tu dis Netflix, là, puis j'ai dit Netflix, mais qu'on aime ou pas le personnage, Michael Moore, moi, Fahrenheit 9/11, je l'ai vu au cinéma Odyssey, ça, là.
Oui. Bowling for Columbine.
La veille de mes noces. Je me souviens, je l'ai vu ici.
Hey, tout un enterrement de vie de garçon, ça.
Ouais.
Eh bien, c'est... Ouais, mais t'as raison. Mais ça provient aussi d'ailleurs. Hein. C'était pas ici nécessairement qu'on faisait ça. Celui-là, Super Size Me, avait été très populaire.
Ah oui.
Puis c'est,
oui,
avec Internet, tout le monde réussit à l'avoir gratuitement à la maison.
Jesus Camp. T'as jamais vu celui-là?
Non,
sur les ultra... Non, ça avait pogné pas mal sur les ultra-religieux aux États-Unis avec les pancartes de George Bush. Okay. Les enfants faisaient des prières, puis les cas de la Bible, puis ces affaires-là. Et non, c'était ça, là, c'était élevé, puis pas à peu près, là. C'était très bon.
Le danger, c'est... Tu parlais de Michael Moore, c'est le biais documentaire, puis Netflix aussi, là. Il y a plusieurs personnes qui refont certains documentaires financés par Netflix, puis ils disent, ouais, là, on n'a pas toute la vérité non plus, mais quand même.
Mais quand même. Quand même, mais si vous avez la chance, si vous avez le goût d'aller voir ça, tu sais, c'est l'histoire du Québec, là. C'est l'histoire du Québec, puis c'est. Puis il y a eu des injustices là-dedans, c'est sûr et certain, là. Oui, oui, Pierre Laporte est mort, on a payé sa vie, puis je dis pas que c'est une bonne chose, loin de là. Mais les gars, là, le camp, là, qui étaient payés des salaires ridicules, puis qui ont quasiment laissé leur vie dans les salles de cuve, là. Mon grand-père Marcotte, ça en était un. Tu sais, il en a pas mal dans la région. Là. Ça fait pas si longtemps que ça. Puis c'est Arvida, oublie pas une chose, c'est Arvida. Hein? Là, je suis en train de revenir avec mon fond péquiste. C'est en train de
Je suis tellement content de te voir. Là. Ça sent crévené dans le studio. Je suis content.
Tu parles d'Alcan, puis j'habite la maison de mon grand-père. Fait ouais. Il a resté plein de choses. T'sais, on a fait le ménage partout, mais en bas, il reste encore du stock. Puis il y avait eu un article dans le journal il y a quelques années, puis il racontait le salaire qu'il gagnait chez Cascade dans le temps. En cartonnerie, puis comment ça marchait, puis hein? C'était des boss anglophones.
Non, oui.
Ils ont inclus dans leur vocabulaire plein de mots francisés, anglais, bizarres, parce que ça parlait pas français.
Ah non, moi, mon grand-père, là, il travaillait à l'Alcan, il avait une belle job dans les bureaux, il s'appelait Albert Dickey. Il avait une belle job. Parlant anglais, comme ça, son français. Mon grand-père Marcotte, lui, c'est ça pareil.
Albert Dickey.
Hey, vous ne le voyez pas, là. Il est là avec ses doigts et la petite bouche croche.
je suis comme séparé en deux.
Écoute,
là,
s'il y avait un référendum là, ben, là il votait oui. Là.
Je peux te dire que mon père votait oui juste pour suivre mon grand-père. Non. Des belles années, ça. Des belles années.
Puis là, les Nordiques reviennent-tu, finalement?
Vous autres, pouvez manger de la choucroute.